Cette semaine, on a voyagé de la Grèce vers l'Italie jusqu'en Espagne.
Encore une victoire de canard.
C'est la danse des canards qui en sortant de la mare.
Regarde mes trois petits canards comme ils sautent dans la mare.
Un canard.
Canard, le podcast qui parle d'art et qui vous embouche un coin. Salut Gabriel.
Salut Vicky.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine?
Eh bien, on est allé voir l'expo du Gréco au Grand Palais.
Qui est le Gréco? Le Gréco, je vais te laisser en parler toi, parce que c'est plus ta période.
Ah oui, on se fait une petite bio.
Oui, oui.
Alors, le Gréco, 1541-1614, né en Crète. C'est pour ça qu'on l'appelle le Gréco.
Oui, parce que son vrai nom, c'est, je l'ai noté, il s'appelle Domenikos Theotokopoulos.
Voilà.
Et je l'ai dit sans bafouille.
Ouais, dis donc, bravo. Un point.
Mais on l'appelle El Greco parce que c'était le grec du coin.
C'est ça. Parce qu'en fait, donc, il a commencé en Grèce, puis il s'est dit que clairement, il n'y avait peut-être pas trop moyen de faire carrière là-bas. Parce que c'est vrai que la Grèce, la Crète, d'autant plus à l'époque, est encore très inspirée par les icônes. Et les icônes, donc c'est ces petits panneaux en bois, fond doré, avec en général une petite tête de vierge, avec un bébé, un petit Jésus.
Ouais, thématique religieuse.
Thématique exclusivement religieuse, et puis pas très expressionniste, ni très narratif, quoi. Donc après, il part en Italie.
À Venise d'abord.
D'abord à Venise, où alors là, il tombe amoureux du Titien. Donc c'est en 1567, ça. Donc il découvre la couleur Titien, Tintoret, Véronèse, donc les trois, la triade infernale
c'est
de
ça.
Venise.
Qui, à cette époque-là, à Venise, est assez connue pour faire des tableaux avec des coloris assez chauds.
Oui.
Tu m'arrêtes si je me trompe.
Oui, des coloris chauds.
Mais c'est un
chauds.
Peu ça, vraiment, le...
Et surtout, pas de dessin préparatoire, en fait.
Ah, d'accord.
C'est ça qui fait un peu la spécificité.
Oui, ça c'était un mot difficile.
De Venise par rapport à des écoles comme Rome, parce que donc le problème c'est que le Gréco, il parle pas italien, il connaît personne, et en plus il ne maîtrise pas la technique de la fresque. Et alors la technique de la fresque en Italie, c'est un peu la technique centrale du décor, parce que les commanditaires principaux, donc ceux qui commandent les œuvres aux artistes, sont surtout des églises, et donc dans les églises, c'est soit on fait des panneaux sur bois, soit on peint au plafond. Et le problème, c'est que le Gréco ne maîtrise pas du tout ça, donc il tente sa chance à Venise, ça marche pas, après il tente sa chance à Rome, ça marche pas non plus, et donc, pour finir, comme ils le disent dans l'expo, il accède à son Eldorado qu'est Tolède.
C'est ça, en Espagne.
En Espagne. Il est reconnu notamment pour ses tableaux religieux.
Oui, c'est ça. Il va surtout travailler d'abord pour la cathédrale de Tolède.
Oui.
Et après.
Et ensuite pour un ordre religieux de Tolède, surtout.
Oui.
Et puis il travaille beaucoup pour les privés qui construisent des chapelles et donc qui peignent des tableaux de dévotion pour ces chapelles. L'expo est chronologique. Donc voilà. Après, on va dire que de manière générale, c'est bien présenté.
D'ailleurs, ils parlent du choix de présentation qu'ils ont fait dans le petit texte d'introduction, ce que je trouvais
très intéressant.
Tout chouette, c'est ça. Tout ce dont nous, on vous parle, les choix de scénographie, d'accrochage d'œuvres, ils nous disaient début, on a choisi des fonds blancs pour vraiment qu'on puisse bien profiter des couleurs des tableaux du Gréco. Et ça fonctionne assez bien.
Et j'ai remarqué aussi, donc la toute dernière phrase de l'intro, c'est « Nous avons choisi ces fonds blancs aussi pour faire découvrir la façon dont les avant-gardistes, donc c'est-à-dire les impressionnistes et les avant-gardistes au 19e siècle, ont découvert ces tableaux du Gréco. » Et ça m'a un peu fait tiquer parce que au 19e, je pense que l'idée derrière ça, c'était donc les impressionnistes, les avant-gardistes ont découvert le Gréco dans les musées, mais clairement les fonds n'étaient pas blancs au 19e. Les murs étaient plutôt tendus en de rouge, de vert, mais clairement c'était pas blanc. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de dire que les avant-gardistes, impressionnistes, avant-gardistes avaient découvert le Gréco dans les musées, mais je trouve qu'il fallait être plus clair sur le fait que c'était pas forcément...
ils auraient pu, ouais, ils seraient partis là. Mais là tu parles des impressionnistes, enfin des premiers modernes, des premiers peintres modernes de la fin du 19e siècle. En fait, quelque chose qu'on n'a pas encore dit, c'est que le Gréco, c'est un peintre un peu inclassable à l'époque. Assez étonnant même, alors du coup il y a eu pas mal de... de théories plus ou moins foireuses. Ils ont dit quoi? Peut-être qu'il était astigmate. Oui, parce que il a, en fait, ses tableaux.
Ou mystique.
Mystique aussi. Ses tableaux, il y avait pas mal de déformations du corps. Vous avez des, par exemple, des membres qui vont être allongés, le crâne aussi, parfois, qui va être beaucoup trop grand, des yeux immenses, et des couleurs vraiment étonnantes. Enfin, toujours avec des ciels assez, assez bariolés, comme des ciels de début d'orage, un petit peu inquiétant, même pour des scènes assez apaisées. Et l'exposition nous donne quelques pistes, un petit peu, essaie de nous expliquer quoi comprendre à travers ça, pourquoi ça pourrait être le cas, comment est-ce qu'il en est arrivé à ce style-là, et j'ai trouvé ça super bien.
Oui, moi aussi. En fait, disons que le fait d'avoir fait une expo chronologique, ça nous montre les influences qu'il a pu avoir. Donc ça commence avec les icônes grecques.
C'est ça, il disait qu'il n'avait quand même pas la formation que les peintres italiens de la Renaissance de ce moment-là.
Voilà. Et que du coup, après, il a été influencé par les couleurs des Vénitiens. Après, il a été influencé par les dessins de Michel-Ange à Rome.
C'est aussi hyper intéressant. En fait, qu'il dessinait d'après les statues de Michel-Ange.
Oui.
Et je trouve que c'est assez chouette d'avoir cette perméabilité entre les techniques d'art à l'époque. De dire que ce n'était pas les peintres avec les peintres. Bah non, ils étaient un peu tous, ils allaient un petit peu tous grappiller partout. Et une petite partie aussi, on voit qu'il s'est un peu essayé à l'architecture. C'était pas... Leur carrière était pas cloisonnée.
Après, pour revenir à cette partie sur l'architecture, il y a deux parties qui m'ont un peu dérangée, moi, dans tout ça. C'est cette partie sur l'architecture, et il y a eu une partie aussi sur le gréco-dessinateur. Et j'ai trouvé que ces deux parties, c'était un peu des parties... on voulait vous dire que le gréco... en fait, c'est lui qui réalisait toute l'architecture de ces retables. Donc, les retables, en fait, ce sont les parties centrales dans les églises qui servent, en fait, de scène au serment du prêtre, on va dire. En gros, c'est toute une architecture qui est mise derrière l'autel avec des tableaux incrustés et tout ça. Et donc, le Gréco était en charge de dessiner l'ensemble... de cette architecture.
C'est ça, non seulement la peinture au milieu, mais aussi tout le décor autour qui peut être en bois sculpté ou même plus,
voilà.
Je sais pas trop.
Mais c'était intéressant de le mentionner, mais disons qu'ils en ont fait toute une partie et en réalité, ils avaient un objet et demi. Parce que... Donc, il y avait une maquette d'un...
D'un tabernacle.
Voilà. Une maquette d'un tabernacle, donc, qu'il aurait dessiné. Et il y avait... Donc, le demi, c'est en fait... un traité d'architecture qu'il a annoté.
Oui.
Il n'a pas écrit, donc ils disent dans le texte qu'il avait pour projet peut-être d'écrire un traité, mais là on a un traité imprimé avec des annotations de lui.
Et les dessins, où on nous dit en fait on connaît que 7 dessins du Gréco, et là il nous en avait mis 3-4, un truc comme ça.
Oui, voilà.
Ce qui était plutôt chouette de se dire, ah bah sur 7 quand même on en a 3-4, mais en réalité ça n'apportait pas grand chose au public. Et en plus c'était un peu la partie de fin, l'avant-dernière partie, on comprend que c'était pas central dans leur propos.
Oui, 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 mais c'est vrai que j'en aurais pas fait deux grands textes, quoi. En fait, c'est le fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y ait un grand titre, un grand texte, quoi, pour 4 œuvres.
En revanche, hyper intéressant, moi je trouvais, c'était la partie sur les séries à la fin. Même s'ils nous refont le bon en disant « bah oui, c'est peut-être ça qui a aussi inspiré Cézanne et les impressionnistes », alors je trouvais que ça, le bon de 400 ans est un petit peu violent.
M'a un peu glacé, ouais.
Mais le message très intéressant, c'était de dire qu'il a procédé par série, ça veut dire que des fois, il avait par exemple une figure d'un Saint Paul qu'il a copié presque à l'identique, qu'il va venir insérer ensuite dans d'autres tableaux ou garder isolé, donc on aura 3-4 tableaux avec une figure quasiment pareille, enfin vraiment copier-coller, et ils disent « bah peut-être que c'est aussi ça qui fait que après avoir un peu pris toutes ses influences de partout, il a un peu tourné en vase clos sur lui-même. Et c'est aussi peut-être comme ça qu'il s'est créé son style tellement particulier, tellement qui nous paraît tellement étrange, tellement hors de l'époque de la Renaissance aujourd'hui. Et ça, je trouve ça assez bien. Surtout que je l'ai lié aussi au fait que toute cette notion qui était quand même assez... Enfin, il était apatride, le gars. Enfin, il n'a pas trouvé ni sa place ni en Italie, ni en Espagne réellement. Il a quitté la Grèce parce que cela ne convenait pas. Donc ça aussi, il a jamais vraiment trouvé sa place dans un ensemble, au sein d'une confrérie, au sein d'un mouvement. Et voilà, je trouvais ça, c'était des belles pistes pour nous expliquer un petit peu pourquoi l'art du Gréco est aussi, aussi étrange.
Et oui, alors pour en revenir aux mentions d'artistes modernes, on va dire, si ce n'est contemporain, le coup de donc, Cézanne, oh, oui, il a fait des séries, oh, Cézanne a fait des séries, oh là là, ils se sont inspirés. Bon, c'est quand même 400 ans plus tard. Et le coude, je sais pas si t'as vu, il y avait un tableau. C'était donc une sainte famille, donc Joseph, Marie, Jésus, avec une sainte Anne. Et là, ils disent, ils mettent dans le cartel explicatif, oui, à leur construction très assurée, presque décousue, qui n'est pas loin d'annoncer le cubisme de Picasso.
Ouais, un peu tiré par les cheveux.
Ouais.
À la fin, c'est plus pertinent. Dans la toute dernière partie.
Tout à fait, tout à fait. Dans la toute dernière partie, il y a un tableau. Là, je dis ouais.
Même plusieurs, ouais. Avec des espèces de grands drapés. Ouais, des grandes silhouettes, des grands drapés, ouais. Mais complètement avec des angles très pointus, très cassés. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait Cézanne. Ouais. Et en plus, là, il nous explique vraiment. Et ben, en fait, à la fin de sa vie, c'est là où ben, il était tellement vase clos, il a fait des choses les plus étonnantes de sa carrière. Et ben, il a été un petit peu oublié et redécouvert justement par ses impressionnistes, par Cézanne, par les autres, qui l'ont un peu érigé en maître de la modernité à cette époque-là. Oui. Avec, ben, je pense pour l'époque, de la part de Cézanne et des autres, un certain anachronisme, forcément. Oui. Mais là, on comprend bien ce qu'on a essayé de nous expliquer vaguement en parlant de Cézanne trois fois au fil de l'exposition. Là, on se dit, ah oui, d'accord, ok, là, ça fait sens. Autre chose aussi que j'ai trouvé très bien fait, c'est sans que ce soit trop appuyé, on avait des bonnes infos au compte-gouttes tout au long de l'exposition sur ce que c'est que le travail, la carrière d'un artiste à la Renaissance. Alors on parlait déjà un petit peu des conditions matérielles de ce qu'est qu'être un peintre avec l'exposition Degas, alors pour la fin du 19e. Et là aussi on a plusieurs points intéressants, enfin le fait qu'il n'arrive pas à faire carrière à Venise et à Rome en pleine Renaissance, bah, parce que bon bah oui, le pauvre chouchou, bah, il parle pas italien donc c'est un peu compliqué, qu'il a pas de commande, ces histoires de ces combats contre les mauvais payeurs, surtout l'église qui veut pas lui payer les tableaux qu'il leur a fournis.
J'ai trouvé ça génial.
Ouais, mais oui, mais c'est ça, mais ça nous rappelle un petit peu que bah derrière il y a du concret quoi, c'est une affaire de sous aussi l'art et c'est pas juste sa sainte inspiration qui a traversé sa main et son pinceau. Non, on a bah il y avait des commandes, il y avait des mecs qui payaient pas derrière. Et aussi son histoire d'atelier, parce qu'il y a toute une petite partie sur son atelier, avec son fils qui avait pas du tout envie d'être peintre, mais bah, il lui fallait quand même un petit peu une sorte d'héritier, parce que c'était aussi une garantie pour ses commanditaires, des gens qui allaient lui commander des tableaux, et qui voulaient, bah, si jamais le Gréco canne avant la fin de la réalisation du tableau, bah, au moins son fils, son héritier, peut assurer la commande. Voilà, c'est des petits détails comme ça qui sont toujours intéressants.
Après, voilà, de manière générale, c'était bien exposé, les œuvres étaient bien.
Petit problème de flux, de gestion des flux, j'ai trouvé au tout début.
Oui.
On arrive, c'est un peu étranglé, en plus il y a des petits tableaux, donc forcément, on reste coincé.
Puis en plus, entrée et sortie, ils sont au même endroit. Ouais, enfin, de l'accès, disons.
Oui, c'est ça, mais l'accès, disons qu'au début, c'est un peu coincé, mais après, on arrive, après ça va bien.
Mais ouais, après, sinon, éclairage top, hein, parce qu'il y avait même des grands formats.
Pas de reflets.
Ouais, et puis tout bien éclairé, tout accessible. Très visible, les textes étaient écrits grands. Après, pour l'éclairage, moi, je connais un type qui est dans les lumières. Je connais un gars dans les lumières qui m'a dit que l'important, c'était qu'il y ait une double exposition, en fait. Qu'il y ait deux spots qui arrivent sur la même œuvre, de deux côtés différents. Et forcément, ça fera pas...
Ouais, t'auras pas un spot en milieu qui reflète d'un coup. Ok, voilà. Intéressant, très
merci.
Bien. Et j'ai trouvé que cette histoire... En fait, le parcours de l'exposition se fait... Vous faites une boucle. Vous revenez sur le pas, comme tu disais, bah oui, si on ressort par là où on est rentré, c'est qu'on fait une boucle. Mais c'est chouette, parce que comme ça, on peut vraiment prendre le temps de revoir d'autres choses qu'on aurait vues une première fois en passant, en lisant les textes et en revenant après. Et ben, ça fait profiter, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé que la grande force de l'exposition, c'est que c'est magnifique. Enfin, c'est les tableaux du Gréco, c'est absolument magnifique.
C'est poétique.
J'en avais jamais vu autant regroupé, j'avais jamais vu une exposition sur le Gréco. J'aimais bien, mais j'en pensais rien de plus que ça. Et c'est poétique, c'est émouvant aussi, parce qu'il y a cette manière de peindre, parfois un peu angoissante, parfois décoratrice, mais toujours décorative. Enfin, je pense qu'il y a un Christ en croix qui a des espèces de larmes de sang qui lui coulent des deux bras. Mmh. En fait, qui pendent de ses bras comme si c'était des sortes de pampis de cristal. Anatomiquement, c'est complètement foiré. Enfin, on n'a pas des... Non, mais c'est vrai, il n'a aucune blessure, puis il y a ces trucs-là qui coulent de toute la longueur de ses bras. Mais c'est juste à la fois inquiétant, très beau, très délicat, c'est assez incroyable.
Et bah, comme d'hab, il y avait une petite chrono.
Ouais, bon, celle-là, c'était vraiment...
Non, elle était très bien, celle-là. Enfin, elle était très bien, elle était sans intérêt.
Oui,
parce qu'elle est, elle est reprise exactement dans l'expo, mais disons qu'elle était pas... Enfin, c'était encore une fois, elle était mise dans la montée de l'escalier.
Pour oui, mais ça, c'est bien. Le texte d'intro et la promo qui sont mises. C'est ça. Bien. Dans la montée du grand escalier du Grand Palais. Si vous n'avez jamais le Grand Palais, en fait, il y a un grand escalier très large. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous pouvez bien vous étaler, prendre le temps de lire l'intro ici et pas coincer tout, toute l'entrée de l'expo comme c'est fait souvent. Oui. Mais bon, ça, après, c'est aussi les capacités du lieu, tout ça. Mm-hmm. Enfin, c'est pas toujours simple.
Et oui, encore une petite remarque sur les textes. J'ai trouvé les textes parfois un peu ronflants, et clairement, la dernière phrase, j'ai cru que j'allais cramer le... j'allais cramer l'expo, quoi. Alors, on parle des impressionnistes qui découvrent le Gréco, et donc ça finit par, donc, en parlant du Gréco, ils disent « leurs camarades sur les bancs, indisciplinés de la modernité ». Et alors là, je me suis
Moi,
dit...
Moi, ça a fait battre mon petit cœur.
Non, c'était trop sensible.
Non, non, c'est vrai. Non, c'était un peu, oui, ronflant le
terme. Non, mais la dernière, terminer là-dessus, quoi.
Mais ils aiment bien, faut faire plaisir au commissaire. une petite envolée lyrique pour la fin, c'est bon. Non, non, mais je comprends que ça puisse un peu crisper.
Alors, est-ce que tu as une œuvre préférée, Gab?
J'aurais eu du mal à choisir, en fait, il y a plein de choses. À chaque fois, c'est plutôt des petits détails que j'ai trouvé très très beau dans un tableau. C'est un peu comme cette stupide pub avec Jean Rochefort où il dit à ma guise, mais en vrai c'était un petit peu ça. J'aurais bien pris des petits bouts de tableau. Alors bon, j'en ai quand même choisi un. C'était une Marie-Madeleine pénitente, où justement on voit un petit peu tout ce qui fait la spécificité
ah, tu vois,
du
c'est
Gréco.
Pas facile à dire.
On a à la fois les ciels qui sont en même temps une espèce de bleu-gris de plomb, et puis il y a un petit peu rose derrière. Elle a cette déformation du visage avec des yeux immenses, complètement humides, et toujours des petits détails très délicats, très beaux. Alors là, il y a une espèce de petit foulard transparent, brodé, qui est juste autour de ses épaules. Enfin, il y a plein de choses à voir dans ces tableaux. À la fois, ça vous fait une impression très forte, et en même temps, dès que vous vous penchez un petit peu, il y a plein de petits détails qui sont bouleversants tellement c'est beau. Et toi-même, dis-moi tout.
Et moi-même, moi, c'est le triptyque de Modène, qui est au tout début. C'est donc un triptyque, c'est-à-dire trois panneaux qui sont accrochés ensemble en général, et donc là c'est un triptyque portatif, c'est-à-dire que c'est un triptyque qui a été commandé par un privé et qui pouvait replier et glisser dans sa poche, et puis à tout moment il pouvait faire sa prière très facilement. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait il date des années 60, fin des années 60, 1560, et en fait ça annonce toute l'œuvre du Gréco.
Oui, parce qu'il il commence un peu sa formation en 1560.
Oui,
c'est et il l'a fini vers 1616, donc c'est vraiment le début.
Oui, oui, là, oui, il meurt en 1600...
Ou 1614, mais...
1614. Il naît en 1541, il meurt en 1614, donc là, les années 67-69, c'est, on va dire, la fin de sa formation, et donc dans ce triptyque, toutes les caractéristiques de son œuvre seront retrouvées après, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment... un petit condensé de l'œuvre du Gréco en un petit triptyque, c'était vraiment super beau. Puis des couleurs magnifiques, enfin, un peu plus c'est tout petit, alors c'est mignon.
Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est un petit condensé de coloris qui vous explose en pleine tête, ouais. C'est assez impressionnant.
Faut
qu'on fasse les infos pratiques.
Mais je ne trouve pas les infos pratiques.
Bah sinon, c'est moi qui les fais. Hein.
Ouais, vas-y.
Pardon, je suis désolée. Les infos pratiques, ça se passe au Grand Palais. Grand Palais qui se trouve sur la ligne 1 à Champs-Élysées Clémenceau. Donc si à l'heure où nous enregistrons c'est encore la grève, vous pouvez quand même y accéder.
Vous n'avez pas d'excuses.
Ouais, oui. Non, par contre, malgré la grève, les mamies étaient toujours
au pied levé. Ouais.
Dont une qui était particulièrement agressive. Mais bon, on n'en reparlera pas. Je me calme. Alors, vous pouvez y aller tous les jours, sauf le mardi, c'est fermé le mardi. Et vous avez des nocturnes jusqu'à 22h, mercredi, vendredi et samedi. Le reste du temps, c'est 10h-20h. Ah oui, et c'est 10h-22h tous les jours pendant les vacances de Noël. Donc vous avez vraiment zéro excuse. Et aussi pendant les vacances d'hiver, parce que ça dure...
Jusqu'au 10 février.
Jusqu'au 10 février, merci, tout à fait.
Mais pas de problème, je suis là pour servir.
Je sais que tu me surveilles, parce que je les fais pas souvent, les infos pratiques, c'est ça que je les fais pas très bien.
Ça me stresse du coup.
Tarif, plein tarif, 13€, tarif réduit 9€. Et nous, clairement, on a profité de la carte annuelle qu'on avait prise au Palais du Luxembourg.
La carte...
On rappelle...
Ouais, la carte Sésame Plus.
C'est ça. Où on rappelle, vous avez tous les expos du Palais du Luxembourg, du... Oui, c'est ça. Et du Grand Palais. Du Musée du Luxembourg et du Grand Palais. Pour la modique somme de...
35€.
C'est ça.
ça vaut grave le coup pour les jeunes.
C'est ça.
C'est moins de 30 ans.
Alors, est-ce qu'on y va, du coup, à cette expo ?
Alors, on y va avec qui ?
On y va avec qui ? On y va, si, comme moi, vous aimez les beaux brins barbus avec des pommettes saillantes et des longs nez pointus, parce qu'il y en a plein.
Du coup, on n'y va pas pour un date.
Si, on peut. On y va pour l'expérience esthétique. Parce qu'aussi, il y a plein de beaux prêts. Enfin, c'est quand même, il y a plein de tableaux qui viennent partout dans le monde. Je pense que c'est rare d'en avoir tout cela réuni. Que vous aimiez la peinture ancienne ou pas, c'est vraiment une expérience esthétique, c'est très beau. On y va en emmenant ta mère.
Ta mère, ouais. C'est exactement ce que j'ai dit.
Allez, le week-end avec maman.
Le week-end avec maman et papa, quoi. Voilà.
C'est ça. C'est pour leur en mettre un peu plein la vue.
Oui, exactement.
Et leur en mettre aussi un peu, comment dire, et les impressionner parce que vous aurez su plein de trucs grâce à nous, grâce c'est à ça. Canard.
Eh ben, le podcast s'achève.
C'est ça. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Podbean, sur Spotify, sur iTunes.
Sur Instagram et Twitter.
Parlez de nous autour de vous si vous avez aimé ce podcast.
On vous dit à bientôt.
À bientôt, Vicky.
À bientôt, Gabriel.